Que la grâce, la miséricorde et la paix nous soient vraiment données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. En ces instants, je voudrais vous rappeler cette exclamation de Jacob se réveillant en pleine nature et s'écriant « Le Seigneur était ici et je ne le savais pas. » Il n'est pas nécessaire d'être dans une cathédrale, dans une église, dans un édifice quelconque ou dans une salle évangélique pour éprouver la présence du Seigneur. Nous pensons en cette année où l'on se souvient de la révocation de l'édit de Nantes par Louis XIV et de ces persécutions que nos ancêtres huguenots, qui étaient attachés à la parole, se réunissaient dans les forêts, dans les montagnes, comme il y en a encore, tant dans ce monde, quelque part, dans l'extrême-orient, dans les pays communistes, où l'on se rassemble dans les forêts, et où l'on éprouve pourtant, malgré tous les dangers, l'ineffable présence du Seigneur. Car il l'a dit, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, non pas au nom d'une église quelconque qui garderait le nom d'un homme, on peut vénérer nos conducteurs, mais nous ne nous réclamons d'aucun homme. C'est le Seigneur qui nous rassemble en un seul corps, pour que nous puissions ensemble le louer, l'adorer, le bénir, et jouir justement de l'efficacité merveilleuse de cette présence. Il l'a dit, et nous le croyons, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là, et il est là dans toute sa plénitude, il est là, lui qui possède l'Esprit sans mesure, qui était rempli du Saint-Esprit, dans le sein de Marie, qui fut baptisé au Jourdain, recevant de Dieu devant les hommes cette consécration absolue, recevant ses paroles, l'accréditant au début de son ministère comme étant le Fils unique du Père, ce Fils en qui Dieu trouvait toute sa joie et tout son plaisir. Oh, combien nous frémissons quand nous pensons qu'au psaume 14, nous lisons que Dieu, quand il regardait du haut du ciel, sur les fils des hommes, il pouvait dire et il devait dire, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Il n'y a personne qui soit intelligent. Tous se sont détournés. Tous marchent dans leur propre voie. Puis un jour, au baptême de Jean, le regard de Dieu s'est arrêté sur un homme, l'homme Jésus, son unique, et le cœur du Père éclate. Le ciel s'ouvre et l'on entend cette voix d'un Dieu que depuis longtemps on croyait silencieux, c'est mon Fils. Et en lui, je trouve tout mon plaisir. Alors vous comprenez pourquoi, quand à la fin de son ministère, devant le souverain sacrificateur à Jérusalem, il est sommé de dire qui il est, es-tu le Fils de Dieu, je t'adjure par le Dieu vivant. Ce Dieu vivant qui a donné notre thème à ce camp. Je t'adjure par le Dieu vivant. Es-tu le Fils de Dieu? Tu l'as dit. celui que nous voulons adorer ce matin. Dieu notre Père, oui, nous sommes dans cette merveilleuse nature que tu as faite. Nous sommes vraiment en ta présence. Et nous te demandons de nous conduire dans la méditation du chapitre et qui est devant nous. Et ensuite, de nous donner le moment que tu voudras pour que chaque cœur puisse s'exprimer dans la liberté de ton esprit. Et que tu nous prépares ainsi à ce saint repas où nous désirons confesser publiquement que nous t'appartenons. C'est toi qui veux nous inviter à ta table. C'est toi qui veux distribuer ce pain et ce vin entre nous, en nous rappelant ton corps donné pour nous, ton sang versé qui nous purifie de tout péché et qui nous donne l'assurance que le prix de notre achat n'a pas été fait avec de l'or et de l'argent qui peuvent être dévalués, mais que le prix de notre rachat a été fait avec le sang précieux de Jésus-Christ. Louange à toi, Seigneur. Amen. Avant de faire la lecture de ce chapitre 16 du livre des Proverbes, puisque nous vous avons rappelé que tout à fait, d'une manière tout à fait inhabituelle, nous continuons notre étude, même dans le culte, parce que nous voudrions pouvoir couvrir dans ces 15 jours les 31 chapitres de ce livre des Proverbes. Alors, je vous invite à chanter dans cette belle nature peut-être le numéro 15 pour nous préparer. Les cieux et la terre célèbre en cœur la gloire du Père, du Dieu créateur, qu'il est redoutable dans sa majesté, qu'il est admirable dans sa charité. Nous allons chanter les 4 strophes de ce cantique. Les cieux et la terre célèbre ton cœur, la gloire du Père, du Dieu créateur, qu'il est redoutable dans sa majesté, qu'il est admirable dans sa charité. C'est lui qui nous donne les fruits de l'automne, les pérennes. Thank you. Nous allons maintenant faire la lecture sur laquelle nous reviendrons ce matin, chapitre 16 du livre des Proverbes. Hier soir, nous avons vu que le chapitre 15 se terminait par une vision de la gloire, couronnement de la douceur et de l'humilité, caractère par excellence qu'avait Jésus, celui qui était doux et humble de cœur. Et je vous rappelle que le premier verset du chapitre 15 nous montrait sa douceur, et le dernier verset de ce chapitre nous montrait son humilité. Et Jésus a vraiment vécu les paroles contenues dans le chapitre qui était l'objet de notre méditation d'hier soir. Il est donc pour nous cet homme intelligent qui est cité à deux reprises dans ce chapitre, puisque nous essayons de distinguer un portrait de Jésus dans chaque chapitre des Proverbes. Dans ce chapitre, nous voyons là l'homme intelligent. La douceur et l'humilité, caractère de Jésus-Christ. Ne détruisez jamais en vous ces caractères du Seigneur. Souvenez-vous qu'il était doux et humble de cœur. Et nous avons vu que le Seigneur lui-même s'était abaissé en devenant obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. La différence entre le Seigneur et nous, c'est que le Seigneur, lui, il s'est abaissé lui-même. C'était là son humilité. Tandis que nous, pour être humbles, nous avons besoin d'être abaissés. C'est pourquoi nous acceptons la correction. Jésus n'avait pas besoin d'être abaissé parce qu'il s'était abaissé lui-même. Il s'est abaissé lui-même. Mais nous, nous sommes tellement orgueilleux que nous ne voulons pas nous abaisser. Alors, Dieu, dans son amour, permet les épreuves pour nous abaisser. Pour nous amener à cette humilité qui va devant la gloire. L'humilité précède la gloire. Oui, si vous voulez la gloire, et les responsabilités dans le royaume éternel de notre Seigneur Jésus-Christ, il vous faut d'abord accepter l'humilité. Humilité d'abord, avant les responsabilités. Or aujourd'hui, parce qu'on veut donner trop vite des responsabilités à des personnes qui n'ont pas encore connu et qui ne vivent pas dans la véritable humilité, c'est la catastrophe. Parce qu'on ne suit pas l'Écriture. Alors ce matin, notre lecture qui précède le mémorial de l'unique sacrifice du Christ, cette lecture est donc celle du chapitre 16e, que je vous invite à écouter et à suivre si possible dans vos Bibles, en appliquant les 7 règles que nous vous avons enseignées. Les projets que forme le cœur de l'homme dépendent de l'homme. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Recommande à l'Éternel tes œuvres, ou d'autres versions disent ton sort, et tes projets réussiront. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant, pour le jour du malheur. Tout cœur hautain est en abomination à l'Éternel. Certes, il ne sera pas impuni. Par la bonté et la fidélité, ou par la bonté et la vérité, on expie l'iniquité. Et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Je vous rappelle que vous demandez au Seigneur qu'un de ces versets, qu'une de ces paroles puisse toucher votre cœur et que vous puissiez dire ce matin, il y avait un message prophétique pour moi. Je l'ai reçu de Dieu. Une prophétie, c'est une parole qui vient du sanctuaire, mais par sa parole. Verset 8. Mieux vaut peu avec la justice que de grands revenus avec l'injustice. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Des oracles sur les lèvres du roi. Sa bouche ne doit pas être infidèle quand il juge. Le poids et la balance juste sont à l'Éternel. Tous les poids du sac sont son ouvrage. Les rois ont en horreur de faire le mal, car c'est par la justice que le trône s'affermit. Les lèvres justes gagnent la faveur des rois, et ils aiment celui qui parle avec droiture. La fureur du roi est un messager de mort, et un homme sage doit l'apaiser. La sérénité du visage du roi donne la vie, et sa faveur est comme une pluie du printemps. Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or? Combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent? Le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal. Celui qui garde son âme veille sur sa voie. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. C'est le verset central du livre des Proverbes, de ces 915 versets. Nous sommes là au verset central, où je relis une seconde fois. L'arrogance précède la ruine, ou l'orgueil précède la ruine, et la fierté d'esprit va devant l'écrasement, dit une autre version. Mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Celui qui est sage de cœur est appelé intelligent. Et la douceur des lèvres augmente le savoir. La sagesse est une source de vie pour celui qui la possède. Et le châtiment des insensés, c'est leur folie. Celui qui est sage de cœur manifeste la sagesse de par sa bouche, et l'accroissement de son savoir paraît sur ses lèvres. Les paroles agréables sont un rayon de miel, douce pour l'âme et salutaire pour le corps. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Celui qui travaille, travaille pour lui, car sa bouche l'y excite. L'homme pervers prépare le malheur. Il y a sur ses lèvres comme un feu ardent. L'homme pervers excite les querelles, et le rapporteur divise les amis. L'homme violent séduit son prochain. Elle le fait marcher dans une voie qui n'est pas bonne. Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, celui qui se mord les lèvres, a déjà consommé le mal. Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. C'est dans le chemin de la justice qu'on la trouve. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. On jette le sort dans le pan de la robe, mais toute décision vient de l'Éternel. Seigneur, sanctifie-nous par ta vérité, ta parole et la vérité, et que ce matin, elle puisse encore trouver le chemin de nos cœurs et de nos consciences, et y opérer le pourquoi tu nous la donnes en cette journée du 21 juillet 1985. Amen. Mes bien-aimés, plus nous avançons dans notre étude, plus nous regrettons de ne pouvoir que glaner quelques épis au milieu de ces gerbes magnifiques que nous présente le livre des Proverbes. Voyez-vous, c'est comme un voyageur dans les Alpes suisses, ou peut-être dans les montagnes rocheuses. Il voudrait tout voir, s'arrêter partout, mais le temps presse, et il faut qu'il passe sans avoir pu rassasier ses yeux. Mais nous voulons cependant nous pencher quelques instants sur les textes que nous venons de lire. Vous avez remarqué que les quatre premiers versets contiennent quatre maximes qui, au fond, nous donnent une pensée commune, la souveraineté de Dieu. Premier verset. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Nous sommes bien obligés de nous proposer certaines choses. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que la réponse que nous donnons, elle vient de l'Éternel. Et pour illustrer ce verset, comme je vous ai demandé de chercher dans les exemples de l'Écriture la lumière sur ces textes, je pense spécialement au prophète Balaam. Il reçoit dans le livre des Nombres, au chapitre 22e, une délégation du roi de Moab qui lui demande de venir pour un salaire maudire Israël. Il sait la volonté du Seigneur, mais il est tenté par le présent. Et il dit, bien, je m'en vais faire une nuit de prière. On est très spirituel, alors on a des nuits de prière. Alors qu'on connaît pourtant déjà la volonté du Seigneur, mais il faut faire encore une nuit de prière. Comme ça, on verra bien que notre décision est prise dans la sainteté. Et après cette nuit de prière, où le Seigneur lui a dit, tu n'iras pas avec ces hommes. Il lui confirme une volonté qu'il savait déjà, qu'il connaissait. Eh bien, il obéit, il ne va pas. Mais quand il y a une deuxième délégation, avec des présents plus grands, plus consistants, il est de nouveau tenté. Son cœur n'est pas droit. Et alors il demande une seconde nuit de prière. Et dans la seconde nuit de prière, Dieu lui dit, va. Vous connaissez le récit. Et il est allé. Il est allé. Mais qu'est-ce qu'il a dû dire? Ce qui était dans son cœur? Ce que voulait Balak? Non. Il a dû dire ce que Dieu mettait dans sa bouche. Vous comprenez ce proverbe maintenant? Voilà. Dans son cœur, c'était pas droit. Il a un projet qui n'est pas selon le Seigneur. Mais en définitive, ce qu'il doit dire, c'est quand même le Seigneur qui le lui fait vie. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Oui, ça dépendait de Balaam d'aller là-bas. Mais la réponse que donne la bouche, ce qu'il a dû dire, ça venait de l'Éternel. Alors n'imitez pas Balaam, mais souvenez-vous que bien souvent, un homme qui n'est même pas un authentique croyant peut dire des choses justes. Parce que sa bouche, il n'en est pas maître. Et quand Dieu veut communiquer dans un certain temps une pensée, il peut employer qui il veut. Ça ne dépend pas de l'homme, ni de son cœur, mais il parlera comme oracle de Dieu, même s'il n'est pas au Seigneur. Dieu peut employer qui il veut, il est absolument libre dans ses choix. Verset 2. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Bien souvent, nous pensons que ce que nous nous proposons, c'est absolument juste, c'est absolument pur, mais vous devez toujours vous dire, est-ce que cela plaît vraiment à Dieu? Qu'est-ce que pense le Seigneur de ma décision, du chemin que je suis en train de prendre? Il n'est pas question d'aller demander à Pierre, à Jacques et à Jean s'ils sont d'accord avec ce que nous faisons. Nous avons une dépendance directe du Seigneur. Mais justement, quand on vit réellement dans la dépendance directe du Seigneur et dans l'indépendance des hommes, eh bien, on est beaucoup plus porté à vivre dans cette crainte de déplaire au Seigneur. Et on ne fait rien d'une façon légère, parce que l'on sait que nos actions sont pesées à la balance du sanctuaire avec des poids justes. Peu importe que les hommes pèsent nos actions avec leur poids, nous savons bien souvent que les poids des hommes sont faux, et ce qui compte, c'est que nous ayons affaire avec les poids et la balance du sanctuaire, c'est-à-dire qui servent à peser les offrandes, la préparation des éléments qui composaient un parfum, tout devait être pesé par la balance juste du sanctuaire. Il ne devait pas y avoir trop d'une chose et moins d'une autre chose. Tout était contrôlé par le sacrificateur qui avait reçu des ordres précis par le Seigneur lui-même. Il n'est pas question de composer un feu étranger, un parfum qui n'a pas été commandé. Qu'est-ce qu'il arrive à ceux qui font cela? La mort. Même s'ils sont fils d'Aaron, ils ont voulu composer leur parfum avec leur mesure et leur poids au lieu de suivre les instructions précises du Seigneur. Celui qui pèse les esprits, ah, c'est cela qu'il nous faut nous rappeler. Verset 3. Recommande à l'Éternel ton sort, ou tes œuvres et tes projets réussiront. Vivre dans la dépendance. Pouvoir dire au Seigneur, bien voilà, je me propose telle chose, avec les lumières que j'ai reçues, il me semble que cela est juste. Je me propose cela. Mais Seigneur, si toi, tu vois autrement, montre-le-moi. Alors, on se propose les choses, mais on est déjà prêt à ce que le Seigneur dispose autrement. De sorte que quand ce que nous nous proposons ne se passe pas de la manière dont on l'avait pensé, au lieu de nous heurter contre le Seigneur, on se met tout de suite en accord avec lui et on est en paix. On voit plutôt un exaucement de prière. Le Seigneur qui connaît tout a un élément que moi je ne connaissais pas et il corrige pour moi la chose parce qu'il est un Dieu qui m'aime, un Dieu d'amour. Comme on le voit dans Jacques, on demande toujours au Seigneur, si c'est ta pensée, si c'est ta volonté, si tu le veux, Seigneur, je ferai ceci, je ferai cela, car je ne sais pas même si je vivrai demain. Alors, pourquoi me proposer quelque chose en dehors de cette dépendance du Seigneur? Verset 4. L'Éternel a tout fait pour un but. Oh, j'en suis absolument convaincu. Alors, c'est la paix. Moi, je ne vois pas peut-être le but, mais je sais que mon Dieu a fait cela pour un but. Et que le but que Dieu se propose pour moi, c'est mon bien. Il a tout fait pour un but. Tu le dis, même le méchant, pour le jour du malheur. Alors, ne devenez pas calviniste dans ce sens de dire qu'il y a une prédestination des méchants. Le Seigneur n'a pas créé le méchant. Mais il laisse subsister le méchant pour le malheur. Les conséquences de sa conduite, bien oui, c'est le malheur. Il n'a pas créé un homme pour le malheur. Mais si sa créature refuse de marcher dans le chemin qu'il a tracé, eh bien, il laisse le méchant dans ce chemin-là, parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Prenez les exemples de qui? De Pharaon, par exemple. Et il a été créé, disons-nous, pour le malheur, mais il a été averti avant. Et maintenant, il subit les conséquences de sa faute, de son endurcissement. Parce que nous avons une piètre idée de ce qu'est la gloire de Dieu. Dieu a dit par Moïse au Pharaon que s'il ne laisse pas aller ce peuple, Dieu se glorifiera en lui. Et c'était sa gloire que le Pharaon coule dans les eaux de la mer Rouge. Ben nous, on trouve que c'est affreux, mais pourtant, c'est parce que nous ne connaissons pas la gloire de Dieu. Sa gloire, c'est aussi sa justice, c'est aussi sa sainteté. On ne se moque pas de Dieu. On ne joue pas avec Dieu. Il sera glorifié, même par votre incrédulité, qui parlera d'une façon telle que des âmes se convertiront à cause de votre incrédulité. Vous servirez au dessein de Dieu. Votre incrédulité servira au dessein de Dieu. Est-ce que je vais trop loin? Souvenez-vous de ce que dit Rahab aux espions. Rahab, la prostituée, nous avons entendu ce qui s'est passé, comment vous avez quitté l'Égypte et ce que Dieu a fait pour vous et comment vos ennemis ont été vaincus. Et la frayeur nous a saisis. L'incrédulité jugée a glorifié Dieu et a préparé le salut pour Rahab la prostituée et pour toute sa famille. N'est-ce pas merveilleux, les voies de Dieu? Alors qu'avec notre petite science, nous sommes toujours prêts à juger Dieu et à l'accuser de ceci, à l'accuser de cela, finissons-en avec sur le Seigneur, humilions-nous et prosternons-nous lorsque nous ne comprenons pas. Frères et sœurs, c'est le temps que les chrétiens se prosternent devant leur Dieu souverain. C'est l'heure de ne plus discuter, mais l'heure de tout accepter de sa main que nous connaissons comme étant une main percée. La dernière vision que les disciples ont eue quand Jésus s'en allait au ciel, il ouvrit ses mains pour les bénir, et les regardant s'en aller sur la montagne des Oliviers, qu'est-ce qu'ils ont vu? Les marques dans ses mains, les marques dans les paumes de ses mains. Oui, voilà ce qu'ils ont vu, de sorte que nous savons que celui qui juge, celui qui gouverne, c'est un être qui nous a aimés jusqu'à la mort. Comment pouvez-vous mettre encore en doute ou la justice de Dieu, ou l'amour de Dieu, ou la puissance de Dieu? Dieu est Dieu. Nous ne sommes que des hommes nous ne comprenons pas, et c'est pourquoi nous adorons. L'Éternel a tout fait pour un but. Tout cœur ou teint est en abomination à l'Éternel. Certes, il ne restera pas impuni. Il n'est pas nécessaire de s'arrêter sur ce verset. Par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité. Ah, ne croyez pas que nous pouvons faire quelque chose pour expier nos fautes. Non, mes frères. C'est le sacrifice de Christ qui seul expie nos fautes. Mais nous, comme hommes, si nous agissons avec bonté, si nous agissons avec vérité, eh bien, en quelque sorte, on expie l'iniquité des autres, c'est-à-dire que on donne aux autres l'occasion d'être sauvés. Ainsi, vous pourriez prendre plusieurs exemples. L'exemple d'Abraham avec Abimélec, l'exemple aussi d'autres personnes dans l'Écriture sainte qui nous montrent que ce qu'ils ont fait a donné l'occasion à des âmes qui n'étaient pas au Seigneur de se tourner vers le Seigneur. C'est comme ce que Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Alors qu'il était crucifié, il a eu ses paroles de bonté pour ses ennemis et il a permis que un jour leur péché soit expié, mais par la croix. Mais s'il avait frappé dans sa colère à ce moment-là, tous étaient perdus. Voilà comment il faut comprendre la parole. Il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas d'opposition. Maintenant, verset 7, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Quelqu'un me disait ce matin qu'il faudrait prolonger de 15 jours pour qu'on puisse vraiment s'arrêter sur chaque parole. Mais je dirais qu'il faudrait plus encore que 15 jours. Parce que si vous vous nourrissez de l'Écriture, bien l'Écriture éclaire chacun de ses textes. J'en cite simplement un pour vous aider à continuer cette étude. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Prenez l'exemple d'Isaac. Après avoir subi toutes sortes d'outrages de la part d'Abimélec, un des rois philistins, qui, avec ses serviteurs, bouchait les trous, les puits que les serviteurs d'Abraham avaient creusés, et vous savez ce que c'est que le haut désert. C'était donc des ennemis. Ils se manifestaient comme ennemis, puis tout d'un coup, voilà Abimélec et son chef d'armée, Picol, qui s'amènent vers Isaac, et puis qui veulent faire une alliance avec lui. Et Isaac leur dit, mais pourquoi voulez-vous faire une alliance avec moi? Vous me détestez, vous me haïssez. Et qu'est-ce qu'ils répondent? Nous avons vu que l'Éternel était avec toi et qu'il te bénissait. Nous avons vu, quand l'Éternel est avec une personne, il n'a pas besoin de se défendre. Il n'a pas besoin d'essayer de calmer la haine de ses ennemis. Il ne s'occupe pas de ses ennemis. Il prie pour eux. Priez pour vos ennemis. C'est le Seigneur, à son heure, qui remettra toutes choses. On peut nous accuser de tout. Peu importe, on a accusé le Seigneur. Il met ses ennemis même en paix avec lui. Il dispose favorablement ses ennemis. Sachons attendre, ayons cette patience. Mieux vaut peu avec la justice que les grands revenus avec l'injustice. Il n'y a pas de difficulté. Je vous rappellerai simplement qu'il y a 15 il vaut mieux dans les proverbes. Nous aurons l'occasion de les considérer tous dans un autre moment. Mieux vaut peu avec la justice que de grands revenus avec l'injustice. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Alors, nous voulons rester dans cette pensée. Nous devons peser nos voies, méditer. Nous ne devons pas agir d'une façon irréfléchie. Et alors, nous savons que le Seigneur dirige nos pas. Des oracles sont sur les lèvres du roi. Alors, jusqu'au verset 9, nous avons vu, au fond, la souveraineté de Dieu dans tout ce qui nous arrive. Dieu est Dieu, il est souverain, rien n'arrive sans sa volonté, comme nous le lisons dans les Lamentations. Mais depuis le verset 9, de qui est-il parlé? Du roi. C'est le roi qui entre en scène. Salomon lui-même était roi. Alors, des oracles sont sur les lèvres du roi. Ce qu'il dit, eh bien, nous devons l'écouter. Ce sont des oracles qui doivent être entendus. Et nous devons croire que sa bouche ne doit pas être infidèle quand il juge. Et ce fut le cas pour Salomon, en tout cas, dans les premières années de son règne. Les paroles de Salomon, la sagesse de Salomon, les jugements de Salomon. On en parle encore aujourd'hui même chez les incrédules. C'est un jugement de Salomon, quand on est satisfait de ce que le juge a tranché. Il a tranché d'une façon droite, il a tranché d'une façon équitable. Et on en parle encore aujourd'hui de ces jugements de Salomon. Un juge doit être fidèle dans ses jugements. Et alors, évidemment, verset 11, il y a le poids, les balances justes sont à l'Éternel, et un juge doit y penser à cela. Verset 12, les rois, alors c'est plus seulement le roi, mais tous les rois, tous les gouverneurs, tous ceux qui sont ministres quelque part, devraient prendre de la graine dans ces textes. Les rois ont en horreur de faire le mal. Et je voudrais aussi vous souligner qu'il est parlé de quelque chose qui est en horreur aussi au Seigneur, une abomination. Nous allons revoir tout cela. Les rois ont horreur de faire le mal, car c'est par la justice que le trône s'affermit. Et c'est vrai, dans les pays, vous pouvez le voir. Les lèvres justes gagnent la faveur des rois, et ils aiment celui qui parle avec droiture. La vérité, elle est payante, mes frères et mes sœurs. Alors, bannissons le mensonge. La fureur du roi est un messager de mort. Reprenez l'histoire d'Assuérus avec Haman. Quand Assuérus entre en fureur, on sait que la mort va venir. Et on pourrait prendre d'autres exemples avec David. La fureur du roi est un messager de mort. Un homme sage doit l'apaiser. Il y a des moments où il faut apaiser la fureur du roi. C'est ce qu'ont fait les conseillers de David. Verset 15, la sérénité du visage du roi donne la vie et sa faveur est comme une pluie de printemps. Oh, quand vous allez en Israël et qu'ils vous parlent de la première pluie, ils savent ce que cela veut dire. Ou de la dernière pluie, la pluie de la dernière saison avant la fête des tabernacles. Ce que c'est que la pluie, une vraie bénédiction pour le peuple. Et alors, un roi qui reste serein, eh bien, c'est une bénédiction pour un pays. Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or, c'est clair. Combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent, j'espère que nous le comprenons. Le chemin des hommes droits, c'est de courir au mal, de s'écarter, c'est d'éviter le mal. Mais on n'évite pas le mal, on prie, ne nous induit pas dans la tentation et on court vers la tentation. Puis après, on est étonné d'avoir une chute. Celui qui garde son âme veille sur sa voie. Nous avons à veiller aux portes du Seigneur, mais nous avons aussi à veiller sur notre voie. L'arrogance, alors nous arrivons là au verset central, l'orgueil, tout est là, précède la ruine. Mes amis, vous en avez fait l'expérience. dans un moment où vous commencez à vous enorgueillir, à vous dire, ça va quand même bien, hein, j'ai réussi, paf, il y a la chute après. Parce que le Seigneur vous aime. Et il ne veut pas que vous montiez en graine. Hein. Le Seigneur permet la chute pour vous montrer ce dont vous êtes capable. L'orgueil, eh bien, il vient toujours avant la chute. On se dit, mais pourquoi est-ce qu'il y a eu chute? Parce que tu étais en train d'être orgueilleux, de t'enorgueillir. Or, Dieu ne veut pas l'orgueil. Il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alors, souvenez-vous toujours que le verset central de tout le livre des Proverbes, c'est cela. Et c'est cela la cause de toutes nos misères. Je le sais pour moi, mais quand on a été éveillé devant ce danger, on demande au Seigneur de nous maintenir petits à nos propres yeux. Demeure petit à tes propres yeux, tu seras grand aux yeux du Seigneur. Mais si tu commences à t'élever, eh bien, tu seras abaissé. Ce n'est pas l'exemple de mon maître, lui qui était dans la gloire. Il s'est abaissé lui-même. On n'avait pas besoin de l'abaisser. Il s'est abaissé. Mais il a été grand dans son abaissement. Quelle grandeur dans son abaissement. Quelle ignominie dans notre élévation. Nous devrions avoir honte d'être élevés par le monde. Et pourtant, nous recherchons tellement la gloire du monde. Nous soulignons tellement tout ce que le monde a pu nous donner. Nous nous glorifions de cela. Mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. Et qu'est-ce qu'a perdu l'ange supérieur, Lucifer, qu'est-ce qu'il a perdu? C'est l'orgueil. Et c'est lui qui est le prince de ce monde. Et c'est lui qui favorise l'orgueil. Eh bien, que nous puissions nous en souvenir. Mieux vaut être humble avec les humbles. Mieux vaut être humble avec Jésus, l'humble de cœur, que partager le butin avec Satan, le prince des orgueilleux. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Voilà une recette. Réfléchissez sur une chose qui vous paraissait malheureuse, puis tout à coup, en ayant réfléchi, vous verrez un autre aspect, et vous serez réconcilié, et vous trouverez le bonheur. Parce que souvent on est triste, simplement à cause de nos pensées que nous avons sur une chose, on voit la chose d'une telle manière qu'on trouve que c'est catastrophique. Et alors quand vous réfléchissez là-dessus, vous vous dites, mais c'est merveilleux, et vous trouvez la paix, vous trouvez le bonheur. Sans que vos circonstances aient changé, mais vous avez un autre regard. Si j'osais dire ainsi, un second regard sur la chose. Et c'est cela qu'il faut, avoir ce second regard. Et alors on trouve le bonheur. Et celui qui se confie en l'Éternel, ben qu'est-ce qu'il est? Il est heureux. Est-ce que c'est votre cas? Alors donc, vous manqueriez de confiance? Eh bien, pourquoi ne pas le confesser? Seigneur, c'est vrai, je manque de confiance. Donne-moi davantage de confiance. Mais pour que je me confie, il faut que je sois dépendant. Et que j'aille au jour le jour. C'est évangélique, ça. À chaque jour, suffit sa peine. Pourquoi est-ce qu'on est toujours préoccupé du lendemain? Comme si demain, le Seigneur ne sera pas revenu. Parce qu'un jour, il sera venu. Et vos soucis, vous les aurez pris avec vous? Non. Celui qui est sage de cœur est appelé intelligent, et la douceur des lèvres augmente le savoir. Nous avons vu tout cela. La sagesse est une source de vie pour celui qui la possède. Vous avez cette source de vie? La sagesse, qui est la sagesse? C'est le Seigneur. Il donne la sagesse. Et qu'est-ce qu'il disait à la femme samaritaine? Que celui qui boirait de l'eau qu'il lui donnerait deviendrait une source de vie, une fontaine jaillissant en vie éternelle. Alors ne me dites pas que les proverbes sont des textes incompréhensibles. Lisez-les à la lumière de l'évangile, à la lumière des paroles de Jésus, et vous trouverez en chaque parole une clarté merveilleuse. Le châtiment des insensés, c'est leur folie. Celui qui est sage de cœur manifeste la sagesse par sa bouche. C'est évident. Et c'est pourquoi c'est par notre bouche que nous faisons connaître. Qu'est-ce qui sort de notre bouche, eh bien, nous espérons que c'est ce qui est dans notre cœur, mais un cœur non pas naturel qui est plein de toutes les mauvaises pensées, mais un cœur régénéré, un cœur nouveau que le Seigneur nous a donné. Et alors, en apportant des paroles de sagesse, nous sommes en bénédiction aux autres. Verset 24, les paroles agréables sont un rayon de miel, douce pour l'âme et salutaire pour le corps. Vous voyez, une médecine gratuite, c'est salutaire pour le corps, une parole bien à propos, une parole douce. Est-ce que nous avons des paroles qui font un bien physique même aux âmes que nous rencontrons? Nous devrions être préoccupés de leur état physique aussi bien que de leur état moral, hein, et avoir des paroles qui soient un tonique, qui leur fassent du bien aussi physiquement. Verset 25, « Telle voix paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voix de la mort. » On a déjà vu cela au chapitre 14. Nous y reviendrons encore plusieurs fois. Il nous semble que c'était une voie juste, et puis tout à coup, on se rend compte qu'elle aboutit à la mort. Donc, nous nous étions trompés. Donc, il nous fallait davantage réfléchir. Il ne faut rien faire d'une façon légère. Verset 26. Celui qui travaille, travaille pour lui. Celui qui en a le bénéfice, car sa bouche l'y excite. Si tu ne veux pas travailler, tu ne dois pas manger non plus. C'est la parole de saint Paul aux Thessaloniciens. L'homme pervers prépare le malheur. Vous pouvez être sûr de cela. Et il y a sur ses lèvres comme un feu ardent. Ça me fait penser à Hitler quand il parlait. Il préparait le malheur, mais il y avait un feu ardent sur ses lèvres pour ceux qui l'ont entendu. L'homme pervers excite les querelles. Les querelles ne viennent pas du fruit de l'esprit, croyez-le. Les querelles même entre les chrétiens, cela doit disparaître. Les querelles sont les fruits de la chair, les œuvres de la chair. L'homme violent, verset 29, séduit son prochain. Elle le fait marcher dans une voie qui n'est pas bonne. Là aussi, les exemples se multiplient. Mais verset 30, apprenez-le par cœur, ça vous gardera dans certains moments de votre vie. Vous les connaissez, ces moments où vous êtes peut-être un peu inactif, où vous pensez avoir besoin de vous reposer, puis vous fermez les yeux, puis vous vous livrez à des pensées perverses. Vous ne voudriez pas que ça sache. Puis tout à coup, vous vous réveillez. Puis ce texte vous est donné. Hein. Celui qui ferme les yeux. Oh, on ferme les yeux, hein. On a une attitude de quoi? De chrétien. Quand on nous dit, on dit à un public, fermez les yeux. C'est drôle. Qu'on peut être bébête. Même dans la prédication, fermez les yeux. C'était peut-être le moment où il devrait les ouvrir. Mais on croit que pour prier, il faut vraiment fermer les yeux. Oui, mais il faut que ça vienne du cœur, fermer les yeux. Peut-être que j'ai besoin de regarder. Hein? Mais alors, je ferme les yeux, je me donne un air pieux, pieux, pieux. Puis je pense à des saletés sous cette apparence pieuse. On se livre à des pensées perverses. Peut-être qu'on est. Nous sommes des tordus. C'est l'Écriture qui le dit. Il faut que je l'admette. Mais c'est humiliant. Vous allez dire, vous nous avez insultés. Je suis un tordu. Et voilà, je dois le reconnaître. Le Seigneur me l'a fait reconnaître. Alors j'accepte ce jugement. Mais je n'ai pas besoin de rester tordu. Le Seigneur m'a ouvert les yeux. Tout à coup, on se ressaisit. Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, puis aussi celui qui se mord les lèvres. Il y a de la méchanceté dans ces moments où vous mordez votre lèvre, hein, parce que vous voulez retenir votre colère. Vous connaissez ça? On est drôlement observé, hein. Drôlement observé. Celui qui se mord les lèvres, il a déjà consommé le mal. Et vous savez, pour moi, à l'âge de 13 ans, c'est ces pensées qui ont été ma conviction de péché. Le Seigneur m'a touché par là. J'étais un petit saint, selon le monde, selon mes parents même. Et puis tout à coup, quand j'ai réalisé que Dieu voyait toutes les pensées que je pouvais, qui pouvaient me monter dans mon cœur, je me suis dit, mais tu ne peux pas un jour être présenté devant Dieu. J'aurais honte. Et alors, c'est cela qui m'a convaincu de pécher. Il m'a convaincu après par d'autres moyens, mais il a commencé par là. Parce que quand on est élevé dans une famille chrétienne, on évite bien des péchés. Parce que on ne nous donne pas l'occasion. Alors, on se croit petit saint. Puis on nous parle toujours des choses du Seigneur. Puis on nous demande, est-ce que tu as reçu Jésus? Est-ce que tu crois que Jésus est ton sauveur? Bien sûr, on nous a toujours dit ça. Hein? Est-ce que tu reconnais que tu es un pécheur? Petit gosse comme ça. Bien sûr, on nous a toujours dit ça. Hein? Mais c'est des disques. C'est pas réel. Puis tout d'un coup, quand ça devient réel, eh bien, alors, un travail se fait dans notre cœur. Et je bénis le Seigneur pour le travail qu'il a dû faire. Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur, nous voulons l'espérer. Mais, je ne pensais pas qu'un jour j'aurais des cheveux blancs. Une de mes vieilles tantes qui est morte à 90 ans, quand je suis arrivé à 50 ans, elle en avait 85, elle m'a écrit, je pensais pas que tu serais devenu si vieux. Bien oui, ça c'est les pensées des hommes, puis il y a une autre pensée, la pensée de Dieu. Et c'est ça qui est merveilleux. Mais Salomon, lui, à quel âge est-ce qu'il est mort? À 60 ans, hein, parce qu'il n'a pas vécu ce qu'il a prêché. Mais, alors, il a dû passer, connaître que ce qu'il avait prêché était vrai. Mais qui est-ce qui a vécu ce que Salomon avait prêché? Un plus grand que Salomon. Jésus qui disait, il y a ici plus que Salomon. Et Dieu a envoyé son Fils unique pour que les proverbes de Salomon aient été réellement vécus par un homme, le Fils de l'homme, à réaliser les textes de Salomon. C'est pourquoi nous croyons que les textes de Salomon étaient inspirés de Dieu. Lui ne les a pas mis en pratique, mais le plus grand que Salomon est venu et les a mis en pratique. Et c'est celui que nous adorons ce matin. C'est dans le chemin de la justice qu'on la trouve. Et alors justement, dans le chemin de la justice, on a vu qu'il n'y avait pas de mort. Mais Salomon est mort d'une façon prématuré. Il aurait pu vivre plus longtemps. Il l'avait pourtant dit que celui qui observe les commandements, il prolonge ses jours. Mais Salomon n'a pas prolongé ses jours. Alors nous finissons parce que on aurait pu, j'ai fait 3 jours sur le Mont Carmel, une retraite uniquement sur la fin de ce chapitre. Alors, je m'en vais m'arrêter parce que je ne veux pas vous garder 3 jours ici. Mais c'est pour vous dire que vraiment on pourrait s'arrêter, il y a une nourriture, il y a vraiment à défricher hein, dans ce champ qu'est la parole. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. La maîtrise de soi, c'était notre thème sur le Mont Carmel, pendant 3 jours, au milieu des Juifs et des Arabes. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Qu'est-ce qui était lent à la colère? Vous connaissez des héros? Vous connaissez des hommes qui ont pris beaucoup de villes? Oui. Vous pouvez parler de César et d'autres avant lui. Vous pouvez repasser toute l'histoire de ces hommes qui sont des héros au sein de leur peuple. Ils ont une statue, ils ont pris des villes, ils ont pris des pays. Pensez à Napoléon, pensez même à Hitler. Il a pris des villes, il a pris des peuples, les uns après les autres, tous se courbaient sous sa férule. Mais qu'est-ce qu'il faisait couler, ce héros-là, et les autres héros qui sont finalement des héros? Ils ont fait couler des larmes, ils ont fait couler du sang, ils ont multiplié les veuves, les orphelins, ils ont torturé. Qui est-ce qui valait mieux qu'eux? Le sage, avons-nous lu, il s'empare, non pas des villes, mais il s'empare des âmes. Qui est-ce qui s'est emparé des âmes? Le Seigneur Jésus. Nous cherchons à distinguer, à discerner un portrait de Jésus dans chaque chapitre des Proverbes. Celui qui est maître de lui-même vaut plus que celui qui prend des villes. La maîtrise de soi, c'est un fruit de l'esprit. Qui est-ce qui l'a manifesté d'une façon parfaite? Le Seigneur Jésus. Il était maître de lui-même. Il ne se laissait pas aller à des émotions qui l'auraient conduit à des actes qui n'étaient pas selon la pensée de Dieu. Il pouvait être ferme, avoir des paroles de feu et d'acier pour les hypocrites religieux, mais il pouvait avoir cette douceur exquise vis-à-vis des pécheurs et de ceux qui avaient vraiment besoin de lui. Méditez, méditez. On jette le sort dans le pan de la robe, mais toute décision vient de l'Éternel. On jette le sort dans le pan de la robe. Alors vous me direz, eh bien oui, alors maintenant nous avons compris. Et quand nous voulons décider d'une chose, nous avons deux choses devant nous, puis on ne sait pas, on va jeter le sort. On va tirer au sort. J'ai déjà dit, il y a des pasteurs que j'ai connus en France, et qui me disaient que dans leur famille on faisait cela, quand il fallait prendre une décision. Je ne crois pas que cela soit bon. La dernière fois que les disciples ont employé le sort, c'est quand? C'est après la Pentecôte ou avant la Pentecôte? C'est avant la Pentecôte. Pour nommer le successeur de Judas. Mais quand le Saint-Esprit est venu pour baptiser l'Église qui était fondée à la Pentecôte, les 120, bien vous ne voyez plus que les apôtres ont employé le sort. Nous sommes dirigés par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut nous conduire et nous avons maintenant la parole de Dieu. C'est trop facile de tirer au sort. Nous voulons simplement demander au Seigneur qu'il nous donne une direction et quand le Saint-Esprit nous parle, eh bien, il nous donne une conviction. Et alors, on agit par conviction. Tant que je n'ai pas la conviction, je ne fais rien. Mais quand la conviction m'est donnée, je marche. Quelles que soient les circonstances. Et je sais que le Seigneur me sera en aide. De sorte que ce n'est pas parce qu'il est parlé du sort que vous pouvez simplement l'employer. Oh, je veux bien, si vous ne savez pas, est-ce que je ferai du riz ce soir ou des macaronis? Vous jetez le sort. Riz ou macaronis, ça n'a pas bien d'importance. Ça, si vous aimez tellement le sort, employez le sort pour ça. Pour votre cuisine, mais consultez peut-être votre mari. Mes bien-aimés, quel nom donneriez-vous au Seigneur dans ce chapitre? Le roi des rois. Ah, vous avez trouvé. Bon, le roi, le roi. Il est le roi. Alors, on va chanter un cantique qui va introduire notre moment d'adoration. Est-ce qu'il y a un cantique qui parle du roi des rois? Oui, je crois, hein, le 4. Et ce sera beaucoup mieux que d'entendre ma pauvre voix. Vous allez entendre sa douce voix. Alors on se lève. On ne se lève pas debout, mais on se lève. Oui, on se lève debout. Non, mais en français, hein, ça nous choque un peu quand on dit toujours levons-nous debout. Parce que si on se lève, on est debout. C'est un pléonasme. J'entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi, je viens, ô Sauveur, lave-moi dans le sang de ta croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi, je veux mourir avec toi, avec toi sur la croix. Les œuvres du Seigneur sont grandes. Elles sont recherchées par tous ceux qui les aiment. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence. Et sa justice subsiste à jamais. Il a laissé la mémoire de ses prodiges. Une autre version dit, il a établi un mémorial de ses merveilles. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Psaume 111e. Il a établi un mémorial de ses merveilles. Et dans le chapitre 26 du prophète Ésaïe, nous lisons ces paroles. Le chemin du juste est la droiture. Toi qui es juste, tu aplanis le sentier du juste. Ainsi nous t'attendons, ô Seigneur, sur la voie de tes jugements. Notre âme soupire après ton nom et après ton souvenir. Ton souvenir. Jésus, la nuit où il fut livré, dit, faites ceci en mémoire témoin. Il prit du pain, ayant rendu grâce, il le rompit et dit, « Prenez, ceci est mon corps qui est donné pour vous. » Puis, à la fin du repas, prenant la coupe de vin, il l'a fait distribuer à ses disciples en disant, « Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour la rémission des péchés de plusieurs. Je ne boirai plus du fruit de la vigne avec vous, sinon dans le royaume. » Eh bien, que nous puissions revivre ces instants de la première scène de ce souper où le Seigneur établit le mémorial de ses merveilles. Il va se donner lui-même, donner sa chair, donner son sang. Et pour nous qui vivrions près de l'an 2000, il a pensé que ce serait une bénédiction que nous puissions, dans une forêt canadienne, venue de lieux divers, de France et d'ailleurs, il a pensé que nous pourrions le célébrer, le louer, et lui dire, Seigneur, nous t'aimons, et puisque nous connaissons un de tes désirs, bien nous voulons participer à ce saint repas. C'est toi qui nous y invites. Ce n'est pas la table des hommes, ce n'est pas la table d'un groupe plus particulier qu'un autre. C'est la table du camp de Dieu, Mahanaïm. C'est l'expression de cette table unique, la table du Seigneur, dont les tables dans les églises ne sont qu'une expression. Il n'y a qu'une table du Seigneur. En opposition à cette table du Seigneur, 1 Corinthiens 10 nous montre la table des démons. La table des démons qui est dressée dans le monde, où préside Satan, et où, hélas, bien souvent, durant les jours de la semaine, on va s'asseoir et manger et boire. Vous ne pouvez pas avoir communion à la table du Seigneur le dimanche matin et vous nourrir vos appétits naturels à la table des démons, ce que le monde offre. Nous traversons ce monde, nous usons du monde, mais comme n'en usons pas, nous ne nous asseyons pas au banc des moqueurs, alors que le Seigneur nous garde, et que si nous prenons la communion aujourd'hui, que nous puissions, dans la semaine, où que nous soyons, reconnaître que nous avons confessé que Jésus nous habite, que Jésus est en nous, d'une façon réelle, d'une façon vivante, et non pas symbolique, mais dans la réalité toute puissante de son esprit, qui n'est pas une idée, mais qui est une personne très sensible, qui sera contristée dans la semaine, si j'ai une parole méchante vis-à-vis de ma femme, le Saint-Esprit sera contristé. Alors, il me demande de m'humilier, de demander pardon. C'est pourquoi, avant le repas du Seigneur, il est demandé que nous nous jugions nous-mêmes, et si possible, que nous nous réconcilions les uns avec les autres. De telle sorte que, quand nous communions chaque dimanche, nos conflits ne devraient pas durer plus d'une semaine. Parce que justement, nous ne voulons pas priver le Seigneur de notre présence à sa table, car il nous a invités. Faites ceci en mémoire de moi. Après ce repas, nous aurons ce moment de louange et de prière. Que chacun s'examine soi-même. Nous ne pouvons pas vous faire avancer et prendre ici la coupe. Le lieu ne s'y prête pas, comme nous pouvons le faire dans d'autres endroits. Mais nous vous demandons, quand le plat et la coupe passeront dans vos rangs, si vous êtes au Seigneur, si vous lui appartenez, eh bien, recevez son invitation. Prenez ce pain de sa main percée. Buvez à la coupe qu'il vous tend, mais comprenez que cela vous lie au Seigneur. Dont les yeux sont ouverts sur vous, comme nous l'avons vu hier soir, qui voit tout de nos cœurs, que nous ne puissions pas communier indignement, car alors nous porterions un jugement contre nous-mêmes, ne distinguant pas le corps. Mais que personne ne se prive non plus simplement par ce sentiment d'indignité. Je suis toujours indigne. Mais le Seigneur est digne que je réponde à son appel. Et ce qu'il est, c'est un grand sauveur qui m'offre de purifier mon cœur. Si j'accepte ce lavage des pieds, si j'accepte cette purification, alors le Seigneur me rend propre à cette communion qui ne sera pas un geste machinal, mais qui sera un acte de consécration. Mon oui au Seigneur Jésus. Non le baiser de Judas, mais le baiser de la communion. Baiser le Fils, de peur qu'il ne s'irrite. Seigneur notre Dieu, nous sommes en ta présence. Et cette croix dressée ici nous rappelle ta croix, où tu fus crucifié et où tu mourus pour nous dans cet océan de douleur et d'ignominie. Comment ne pas t'aimer, humblement nous prosterner et te dire, dans les minutes qui viendront, notre reconnaissance, notre action de grâce. Te dire simplement, Seigneur, maintenant, c'est toi qui comptes. Nous t'appartenons. Nous avons tellement compté pour toi que tu n'as pas voulu remonter au ciel. Après avoir donné un exemple, tu as voulu que nous soyons sauvés. Et pour cela, tu as donné ta vie. Nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons au Père de nous avoir donné ton Fils. Nous t'adorons au Seigneur de nous avoir donné ta vie. Et nous te demandons, accorde-nous la grâce de pouvoir donner notre vie pour nos frères. Non pas simplement dans le martyr qui peut venir, mais quotidiennement en servant les autres, jusqu'à ce que tu viennes. Amen. Ô Dieu, tu nous as toujours aimés. Avant la création du monde, nous existions dans ta pensée et dans ton cœur. Tu nous as préconnus avant la création de toutes choses sur la terre. Et tu nous prédestinais à être semblables à l'image de ton Fils. Et tu nous as manifesté cet amour malgré que nous nous étions détournés de toi. Tu as pourvu à notre rachat, toi le Dieu trois fois saint qui avait les yeux trop purs pour voir le mal, qui ne pouvait pas tenir le coupable pour innocent. Tu as trouvé même dans notre chute l'occasion de nous révéler ton cœur et ton amour, que toutes tes œuvres de la création n'avaient pas sensibilisé au point de faire de nous des êtres voulant vivre dans la dépendance de celui de qui nous recevions toutes choses pour en jouir. C'est lorsque nous fûmes dépouillés de tout par cet usurpateur, par la voix de Satan, que tu es venu et qu'au lieu de nous punir, tu as pris notre péché tu as été fait péché pour nous. Tu étais en ton Fils. Et c'est toi-même qui es l'auteur de notre salut. Tu ne nous demandes pas de nous sauver nous-mêmes par nos œuvres, mais tu nous as fait grâce. Et maintenant, tu nous as fait encore la grâce de croire à ton sacrifice qui nous rend saints, justes, heureux. Ce matin, n'ayant rien en nous, nous proclamons que nous avons tout en toi, que tu es vraiment le roi des rois, le seigneur des seigneurs, et que nous t'appartenons dans la vie et dans la mort. Merci pour cette coupe que nous distribuons entre nous dans la communion de ton Église universelle, avec tous ceux que tu reconnais pour les tiens. Nous te louons, Seigneur, parce qu'un jour, nous n'aurons plus besoin de ces signes, mais dans la gloire où tu vas nous introduire, nous entourerons celui qui est l'agneau immolé, et nous pourrons chanter ensemble, avec les saints de tous les âges, le cantique de l'agneau. Nous nous réjouissons de ce moment, et nos cœurs s'élancent vers toi. Nous allons à ta rencontre. Seigneur Jésus, tu viens bientôt, et dans la communion de ton Église avec le Saint-Esprit, d'un même cœur, parce que tu nous as aimés le premier, parce que nous t'aimons, parce que nous désirons être réunis à toi d'une façon complète, d'une façon totale. Nous te disons, oh viens, Seigneur Jésus. Amen. Que nous bénissons et notre communion au sang du Christ versé pour nous. Le Seigneur n'a été oublié. Nous allons maintenant passer quelques instants dans la louange. Si quelqu'un a à cœur un cantique qui soit dans la ligne de ce culte qui puisse l'indiquer. Ce que nous vous demandons, c'est que vos prières soient dites à haute et intelligible voix, parce que ceux qui prieront le font comme porte-parole de la communauté. Ils n'ont pas directement des prières personnelles, sinon votre louange. Dans ce moment d'adoration, nous savons que la louange t'attend dans le silence, mais il y a aussi des moments où tu voudrais entendre nos voix, et que ce soit pour nous, alors que plusieurs vont nous quitter, l'occasion peut-être